Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. 9 nouveautés cette semaine sur les écrans Manceaux. Sans filtre, Jumeaux mais pas trop, The Woman King, Maria Rêve, Smile, Vacances, Le Sixième Enfant, La Cour des Miracles et Poulet Frites. C'est très très éclectique ça, hein. Eh bien, on va commencer notre semaine cinématographique avec Sans filtre, puisque le film a obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année. Et justement, dans Sans filtre, on entend cette chanson fort connue, Life d'Esri. Et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh.
Life, je ne sais pas si on dit Desri ou Desri.
Desri.
Desri, hein, oui. Normalement, oui.
Il y a deux œufs, je crois,
oui,
à
oui,
la fin.
Deux, oui, c'est vrai, oui. Voilà, et bien, ce titre, on l'entend sur le film Sans filtre. Et bien, justement, c'est l'occasion d'en parler de Sans filtre. Le film est proposé aux cinéastes avec 3 séances par jour et au Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce, il doit y avoir de la VF et de la VO. Au cinéaste, et bien entendu, uniquement de la VO. C'est un film qui a obtenu, donc, je le disais tout à l'heure, la Palme d'Or au Festival de Cannes en juin. C'est un film de Ruben Östlund, réalisateur, scénariste, monteur suédois, né en 1974. Il a commencé par réaliser un documentaire en 2004, puis en 2008, Happy Sweden, 2016, Play, directement en VOD, 2014, Snow Therapy, moi je me rappelle l'avoir vu, Snow Therapy, c'était pas si mal que ça, et en 2017, The Square, avec Elisabeth Moss, qui avait obtenu lui aussi la Palme d'Or. Donc Ruben Östlund fait partie du clan peu nombreux des doubles palmes de Rizé, Palme d'Or Rizé, voilà. Donc, le film, attention, il fait 2h27 après la Fashion Week. Karl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers. C'est pas si fréquent que ça, mais il faut bien reconnaître que la revue de presse est très 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 partagée. C'est pas fréquent pour une Palme d'Or, souvent elle fait l'unanimité. Là, ça est loin d'être le cas. On commence par ceux qui ont apprécié, c'est Le Parisien. Palme d'Or à Cannes, le film de Ruben Östlund rentre dans le lard du politiquement correct à l'aide de dialogues et de situations féroces. Et ce, tout en soignant la mise en scène. Avec Östlund, on a toujours droit à du grand cinéma. Ouest France, Gilles Kerdreux. Un irrésistible mélange de rire, de sang et de délire poussé jusqu'au paroxysme. François Forestier, L'Obs, c'est celui qui est pour dans L'Obs, parce qu'il y a souvent des journaux où il y a un pour et un contre. Eh bien, François Forestier, il est pour. Déconcertant et poilant, c'est la grande qualité de ce film où les passagers d'une croisière de luxe se retrouvent transformés en naufragés sur une île probablement déserte. Télérama, là aussi il y a un pour, là il y a un contre. Alors le pour, on rit sacrément et cela aide à méditer sur la situation. La liberté que ces personnages cherchent, le Suédois se la donne en tant que cinéaste et nous en fait cadeau. Éric Nohoff dans Le Figaro, feu sur le politiquement correct, haro sur le fric roi, assez de la tyrannie des apparences, sa caméra est un lance-flamme. Cette bataille navale réjouit, décoiffe, le malaise s'installe et il est savoureux. Le journal du dimanche, là aussi le pour, Stéphanie Belpèche. En dépit de quelques longueurs, cet ovni aussi singulier qu'impitoyable brille par sa mise en scène qui ose tout et ses comédiens qui se débattent autour du chaos. Paris Match, Yannick Velly, la charge est un peu facile, certains gags se répètent jusqu'à la nausée, mais Ruben Östlund réussit une nouvelle fois son coup, provoquer un rire du malaise en nous tendant un miroir si peu déformant. Les contres, alors, Les Inoccupables, Muriel Joudet, le cinéaste suédois, dégaine une redoutable machine à flatter son public, travesti en fable faussement subversive. Gaël Golen, dans Première, sans idéal de recours, sans filtre, finit par ronronner de son propre rictus, et ses charges explosives s'étoufferaient presque dans leur propre inanité. La fin du film est d'ailleurs la partie la plus faible. Alors, le conte de Nicolas Chaleur dans L'Obs, de son comique de la gêne ne reste que la gêne d'un film peu comique, formellement aussi creux et lisse que ses personnages, après la grande bouffe, la petite gerbouille. Et le conte d'Alexis Campion dans Le Journal du Dimanche, prévisible, cet humour ne se départ jamais de son cynisme béat, ni du luxe obscène qu'il dénonce. Östlund s'y engouffre sans offrir de cinéma ni d'émotion. Alors, moi, j'ai vu Sans Filtre, je l'ai vu et je suis entre les deux. Je suis mitigé sur ce film. Et une fois de plus, je suis sceptique à propos de La Palme d'Or, car je ne vois pas bien en quoi le film la mérite plus que d'autres que j'ai pu voir qui étaient sélectionnés à Cannes. Alors, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop long. Hein. Ça fait donc, je vous l'ai dit, 2h27.
Presque demi,
et
oui.
On les sent vraiment passer. C'est même interminable. Hein. Ensuite, eh bien, je dois dire que le film part dans tous les sens. Alors, il est composé en 3 actes. Et ça part pourtant bien. Ça part pourtant bien avec cette sorte de prologue. Il y a un prologue qui est extrêmement drôle mais caustique et qui est bien senti sur l'univers de la mode et plus précisément du mannequinat et notamment du mannequinat homme. Là, c'est très bien vu, c'est très drôle et je me dis, on va passer un bon moment. Et puis, on passe au premier acte et le premier acte, c'est pas mal non plus, c'est sur la relation compliquée entre justement un mannequin masculin et une mannequin influenceuse féminine. Et le film s'attache à leur problème avec la relation, avec l'argent et l'égalité dans le couple. Là, c'est plutôt bien vu, c'est encore assez drôle. Et puis, ça se dégrade avec le deuxième acte. Le deuxième acte, c'est cette croisière sur un paquebot de luxe, occasion de se lancer pour l'auteur dans une critique convenue du capitalisme, qui en a vu d'autres, qui s'en remettra d'ailleurs. Dommage, parce que certaines choses sont bien vues, D'ailleurs, comme cette façon de voir dans le paquebot un microcosme de la lutte des classes, hein, les ultra-riches qui ont fait fortune dans des activités peu reluisantes, le personnel de bord aux petits soins et servile à souhait pour récupérer de bons pourboires, et enfin les invisibles en soute qui font fonctionner le bateau et dont tout le monde se fout complètement. Mais là, ça commence déjà à s'apesantir, et avec la tempête, ça devient carrément lourdingue avec ces symboles comme le vomi et la merde. Hein, oui, on pense beaucoup à la grande bouffe de Ferreri, hein. Qui sont donc le vomi, la merde. On a quand même bien compris ce dont il était question, que la richesse, la vulgarité, ça allait ensemble, etc., etc. Et puis, il y a un troisième acte. Alors, le troisième acte, c'est sur une île, après le naufrage du paquebot, où se retrouvent quelques rescapés. Et là, si l'intention est bonne, et une intention d'ailleurs totalement à la mode, de dénoncer le patriarcat, hein, vous voyez, c'est totalement à la mode, et montrer cette troisième partie montre l'inversion du rapport de force en fonction des circonstances, puisque là, les gens qui étaient invisibles reprennent la domination sur les autres parce qu'ils ont de la nourriture et que les riches, ils sont tombés dans le canot où il n'y avait pas la nourriture. Et donc, voilà, il y a une inversion des rapports de force. Donc là, voilà, c'est comme ça. Bon, ça perd toute vraisemblance. Donc, on peut dire que c'est une sorte de fable, de conte, mais ça perd toute vraisemblance. Et ça s'éternise plus que de raison. Et là aussi, en multipliant les symboles. Bref. En resserrant le film, au lieu de le diluer plus que de raison, eh bien, on aurait certainement gagné en efficacité. Ben là, tel quel, on en ressort en ressentant un certain ennui, limite même exaspération. Hein, tout cela n'est pas si subtil que ça. C'est bien au contraire, d'ailleurs, du subtil. On donne une impression d'éparpillement dans les thèmes, même si tout n'est pas jeté loin de là, je vous l'ai dit. Hein, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il est quand même paradoxal que le monde du cinéma et de la critique admire une œuvre qui, pas tous, on l'a vu, en tous les cas, qui désingue un univers qui est si proche de lui, et dont il est un des symboles, peut-être se rendre compte que le monde de l'argent et celui de l'art sont en fait les mêmes. Voilà, donc bon, je suis très mitigé et puis je ne le recommande pas parce que c'est très 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 long. Voilà,
alors à noter que la VO est en anglais et non pas en suédois.
Ah oui, oui, non, mais oui, c'est en anglais, absolument.
Oui.
Bien. Donc,
et on change. Que l'actrice mannequin, malheureusement, est décédée récemment,
exactement.
La pauvre.
Oui, elle était jeune. Trentaine d'années, oui, je crois.
30 et quelques, oui.
Bon, on change radicalement de genre, on passe à Jumeaux mais pas trop. Jumeaux mais pas trop, c'est proposé alors au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Alors, Jumeaux mais pas trop, c'est un film français réalisé par Olivier Ducret et Wilfried Méhance. Je pense que ça se dit comme ça, hein, Wilfried Méhance. Je ne vois pas comment ça pourrait se dire autrement. Et donc, pour ces Olivier Ducret et Wilfried Méhance, eh bien, c'est le premier long métrage, il me semble bien. Je regarde dans mes notes. Non, c'est pas le premier long métrage. Ils avaient réalisé en 2014, enfin, en tous les cas, Olivier Ducret, un documentaire qui s'appelait La vie des gens. Et en 2019, un film qui était directement envoyé sur les étagères des DVD, qui s'appelait Dernier jour d'un médecin de campagne, qui était un documentaire. Olivier Ducret a aussi réalisé le scénario de L'Ascension, où on trouvait déjà Ahmed Silla et Alice Belaïdi, par exemple, qui n'est pas dans ce film-là. Et puis Wilfried Méhance, eh bien, c'est un réalisateur qui n'a à son actif que jusqu'à maintenant que des courts-métrages. 1h38 pour Jumeaux mais pas trop. 33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l'existence l'un de l'autre. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d'autant plus grande que l'un est blanc, l'autre noir. Alors, il y avait une chance sur 1 million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d'être la seule chose qui les différencie. En faisant connaissance, aucun des deux n'a l'impression d'avoir tiré le gros lot. Le Parisien, qu'en dit-il le Parisien? Les scénaristes ont eu la bonne idée de ne pas trop tirer sur le ressort comique de la gémellité et de développer une intrigue riche, bien ficelée et même touchante dès qu'on suit le rapprochement entre les deux frères et leur quête de leurs origines. Je confirme. Le Journal du Dimanche, le duo Huskla-Silla. Huskla, c'est Bertrand Huskla. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui de la pastille. Enfin, c'est pas si, un petit court-métrage. Ça s'appelait Brout qui passait sur Canal. Je crois que c'est fini ça. Donc le duo Huskla-Ahmed Silla fonctionne à merveille, le scénario évite les clichés et l'abus de bons sentiments, tandis qu'une galerie de second rôle savoureux donne du piquant à l'ensemble. Dans les second rôles, il y a Pauline Clément, qui était la complice d'Huskla dans Brout, et puis il y a aussi Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas, et puis d'autres. La rédaction d'Ouest France parle d'une comédie sympathique à propos de ce film. Télé 7 jours, Julien Marcillon, un seul regret, le scénario délaisse rapidement le versant politique, pourtant riche de belles promesses de comédie, pour celui des trémolos un peu faciles. Véronique Coappé, Le Monde, cousu de fil blanc, chargé de bons sentiments, la larme facile. Le film bénéficie heureusement de la présence de deux acteurs aguerris au registre comique, dont ils parviennent à dispenser ici quelques effets salutaires. Voilà, le film est proposé donc, je le répète, au Méga CGR, au Pâté Quinconce et au Colisée. Et le film commence comme une comédie, absolument, avec un point de départ pas banal, mais, paraît-il, on nous le dit dans le film, possible. Bon, c'est cette histoire de jumeaux qui ne seraient pas de la même couleur, mais bon, voilà. On vous explique brièvement dans le film comment c'est techniquement possible et qu'il y a une chance sur 1 million pour que ça se produise. Bon. En cours de route, eh bien, le film devient un film très émouvant. Mais oui, très émouvant. Alors au départ, donc, on a Grégoire et Anthony. Ils découvrent fortuitement qu'ils sont jumeaux. Ils ont été séparés à la naissance il y a 33 ans. Et ils découvrent également que tous les opposent. Grégoire est blanc, issu d'une famille bourgeoise. Il est en pleine campagne électorale pour devenir un député de droite, genre LR, si vous voulez, un petit peu ce genre-là. Anthony, lui, eh ben, il est noir. Il a vécu dans un milieu populaire et il vit de petites magouilles. Pas malhonnête totalement, mais petites magouilles quand même, voilà. Les arts de la vie vont les amener à se rencontrer et à découvrir leur lien de parenté. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur surprise quant à leur filiation. Et ça, c'est la deuxième partie du film. Et alors, par voie de conséquence, le spectateur, lui non plus, n'est pas à l'abri des surprises. C'est un film donc sur les liens de parenté, sur la filiation, mais aussi un film contre les préjugés. Le ton est dans un premier temps à la comédie, avec l'opposition des contraires, hein, le noir, le blanc, le prolo, le gars issu du milieu populaire, l'autre milieu bourgeois. Mais apprenant à se connaître, eh bien, Grégoire et Anthony, eh bien, vont commencer à s'apprécier et devenir de vrais frères à la quête de leur origine. Et là, le film amorce un virage inattendu au départ. Alors, c'est par moments drôle, surtout au début, sans vulgarité ni facilité. Puis cela devient vraiment touchant par la grâce du scénario et de ses interprètes. Alors, donc, les interprètes, c'est Ahmed Silla, Bertrand Huskla, Pauline Clément et les seconds rôles que j'ai cités tout à l'heure. Donc, c'est un film très plaisant. C'est plutôt une bonne surprise, je répète, parce que je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi agréable à voir, avec toutefois une conclusion un peu étirée. Le film fait 1h38, on pouvait l'arrêter au bout d'une heure trente. Avec ce qu'on avait évité jusque-là, il y a un peu trop de bons sentiments sur la fin, mais bon, ça n'entache pas tout de même la bonne impression d'ensemble, et c'est un film que je peux recommander pour un après-midi ou une soirée de détente. Voilà, jumeaux mais pas trop. C'est au Colisée, Oméga et au Pâté. Toujours au Colisée, Oméga et au Pâté, The Woman King, alors il y a de la VO un peu partout, dans les trois cinémas, et c'est un film américain, The Woman King, réalisé par Gina Prince by the Wood, je pense que ça se prononce comme ça, Gina Prince by the Wood, c'est une réalisatrice, scénariste, productrice américaine qui est née en 1963. Jusqu'à maintenant, les films qu'elle a réalisés, on ne peut pas dire qu'ils aient été très bien distribués en France. Soit ils sont inédits, soit ils ont été uniquement sur des plateformes. Donc, par exemple, inédit Love and Basketball. Bon, tout est dans le titre sûrement. En 2000, Act of Love, ça c'est la plateforme OCS qui l'a proposé. Le seul film qui est sorti sur les écrans, les grands écrans en France, c'est Le Secret de Lily Owens avec Dakota Fanning et Jennifer Hudson. Sinon, en 2014, Beyond the Light, c'était en VOD. Et 2000, The Old Guard, c'était sur Netflix. Et puis Gina Prince Bythewood a réalisé aussi des épisodes de séries télé. Le film là aussi est bien long, 2h14. The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agogiers, une unité de guerrières qui protégèrent le royaume du Dahomey au XIXe siècle en Afrique de l'Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal. Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la générale Naniska, qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d'être défendues. Bah, pas par la critique, parce qu'ils n'ont pas été tous enthousiastes. Hein. À part Olivier Lam dans Libération. Le film guerrière de Gina Prince Bythewood, porté par un formidable casting, pourrait être le fer de lance d'une nouvelle Blaxploitation et électrise le spectateur malgré son classicisme narratif. Alors, le casting, moi je connaissais Viola Davis et tous les autres, je ne les connaissais pas. François Delbecq dans Elle, malgré une fin trop longue qui s'enlise dans les bons sentiments, le film parvient à révéler la complexité de certains proches du pouvoir avec les Européens. Stéphane Dreyfus-Lacroix, inspiré de Guerrière d'Afrique de l'Ouest, cette épopée hollywoodienne, efficace, bien que trop longue, et portée par une interprétation habitée, célébrant l'identité féminine noire à l'heure des mouvements MeToo et Black Lives Matter. Oui, ça c'est clair, on est en plein là-dedans. Constance Jamais, Le Figaro, ce bel élan n'empêche pas le film de caler à mi-parcours et de sombrer dans des archétypes mélodramatiques pénibles sur fond d'enfant perdu puis retrouvé, le tout noyé dans une bande-son tonitruante. Fabrice Leclerc dans Paris Match, un film qui s'est évoqué l'Afrique et le féminisme, et qu'une fois passé à la moulinette hollywoodienne, hésite entre le récit historique et le film de super-héroïne. Trop scolaire et formaté pour être convaincant. Et ça se gâte encore avec Télérama. The Woman King ne propose finalement rien d'autre que de changer de sexe et de couleur le personnage principal d'une histoire prévisible et de substituer aux héros blancs des héroïnes noires. Xavier Leur perd dans l'Obs, une réalisation en mode pachyderme, privilégiant lourdeur démonstrative à toute idée d'agilité. Et Le Monde, The Woman King, n'en reste pas moins une œuvre relativement médiocre. Pas vu The Woman King,
pas vu.
Je voulais le voir en VO, les horaires ne convenaient pas, donc j'ai fait l'impasse. Je le verrai quand il passera sur les chaînes cryptées ou pas. Voilà, The Woman King, méga CGR, Colisée, Pâté Quinconce. Petite pause musicale, et bien cette fois-ci, on va écouter Natacha Saint-Pierre. Et oui, vous allez me dire Natacha Saint-Pierre, c'est bizarre. Tu trouveras le grand succès de Natacha Saint-Pierre. On l'entend chanter par Bertrand Huskla et Ahmed Silla dans le film parce que ça leur rappelle leur jeunesse.
Avec Pascal Obispo,
exactement,
je crois.
Parce que dans le film, il y en a un qui fait Natacha Saint-Pierre
et l'autre
qui fait Pascal Obispo, voilà. Bien entendu. Et là, on l'entend sur Radio Alpa 107.3 FM. C'est certainement la première et la dernière fois, vu la programmation musicale habituelle de la radio.
Tu me restes.
Natacha Saint-Pierre, avec la participation de Pascal Obispo, qui a d'ailleurs écrit la chanson quand même, c'est Tu trouverais, on l'entend dans le film Jumeaux mais pas trop, chanté par Bertrand Huskla et Ahmed Silla, qui se rendent compte qu'ils ont aimé la même chanson alors qu'ils n'étaient pas ensemble, bien entendu, puisqu'ils découvrent que leur gémellité que beaucoup plus tard. Voilà. Maria Rêve s'est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film de Lauriane Escaffre et Yvo Muller. Lauriane Escaffre et Yvo Muller, c'est leur premier long métrage. Ils avaient auparavant réalisé un court métrage. Voilà, donc ils sont réalisateurs et scénaristes. 1h33 pour ce film. Maria est femme de ménage, mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite. Elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu'elle est affectée à l'école des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, découvre un lieu fascinant où règne la liberté, la créativité et l'audace dans ce monde si nouveau. Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie? Eh bien, la presse a plutôt apprécié le film. C'est le cas d'Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, ce premier film, qui nous dit « Tout en finesse et trouvailles visuelles, qu'il n'y a pas d'âge pour rêver et aimer », dégage un charme fou à l'image de ses acteurs principaux, Karine Viard et Grégory Gadebois. Carole Nivier, 20 minutes. Maria Rêve est un bijou de tendresse et de délicatesse qui souligne la séduction du comédien. Le comédien, c'est Grégory Gadebois. La rédaction d'elle, eh bien, un film touchant qui sera votre coup de cœur de la rentrée. Gilles Kerdreux dans Ouest France parle d'une belle surprise. Corinne Renoux-Nativel dans La Croix pour leur premier long métrage. Les réalisateurs signent une tendre comédie qui pétille autant que ses interprètes, Karine Viard et Grégory Gadebois. Thierry Chaise dans Première, sorte de rencontre entre Je ne suis pas là pour être aimé et Antoinette dans Les Cévennes. Maria Rêve possède un charme fou. Je vois pas trop bien Antoinette dans Les Cévennes là-dedans. Mais enfin, passons, c'est pas très grave. Donc, Maria Rêve, méga CGR, Pâté Quinconce. En fait, le film s'avère être une énième comédie romantique dont la seule véritable originalité réside dans l'âge et la classe sociale des deux personnages principaux. Sinon, le film obéit strictement au cahier des charges du genre. Maria, donc, c'est une femme de ménage, timide, un peu maladroite, elle casse beaucoup d'objets. La cinquantaine, elle vit en banlieue, dans un pavillon, avec son mari, une existence sans charme particulier, mais sans grand problème non plus, parce que ce couple s'aime. Bon, il y a la routine qui est arrivée, bien entendu, au bout de nombreuses années de mariage, mais bon, il la bat pas, il l'engueule pas, il est aux petits soins avec elle, mais voilà. Mais Maria, suite au décès de son dernier employeur, est engagée pour travailler aux Beaux-Arts de Paris. Et là, elle va découvrir un monde tout à fait nouveau pour elle, le monde de l'art contemporain et de ses étudiants. Alors, elle n'en saisit pas forcément tous les codes au départ, mais elle apprécie quand même la liberté, le ton de liberté, de créativité qui règne. Et puis surtout, Marie rencontre Hubert, le gardien des lieux, qui est là depuis des temps immémoriaux. Tous deux sympathisent, deviennent complices et même davantage. Maria, jusqu'alors si discrète, s'émancipe, ose, voilà. C'est un film tendre qui vaut essentiellement par ses personnages davantage que par son intrigue, parce que l'intrigue, elle est prévisible de bout en bout dans son déroulement. Alors, on appréciera donc le charme de Karine Viard et de Grégory Gadebois, leur naïveté, leur gentillesse, le grain de fantaisie, leur rêve de bonheur simple, voilà, tout ça on peut apprécier. Un film qui a le mérite de s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les invisibles, les petites gens, à leur monde, mais aussi à leurs aspirations, souvent refoulées. C'est un film délicat, chaleureux, avec des personnages attendrissants, avec un petit peu de fantaisie, beaucoup de bienveillance. C'est agréable à voir, mais bon, sans plus, parce que le côté comédie romantique, un peu cucu, finit par l'emporter nettement sur l'aspect comédie sociale qui est un peu lisse. Alors, moins sévère que moi ou plus sévère que moi?
Moins sévère. J'aime beaucoup Karine Viard.
Moi aussi.
Et là, elle ne m'a pas déçu. Elle est tout simplement excellente dans ce rôle de Maria, femme de ménage dans l'école des Beaux-Arts parisiennes et qui rêve d'autre chose. Cette autre chose, eh bien, ce sera de poser nue pour les élèves. Oui, elle ose. Et sa vie va changer, avec en plus une histoire d'amour aussi. J'ai aussi vu dans ce long métrage, qui se déroule donc dans une école d'art, une ironie sur l'art contemporain, l'art moderne, où l'on fait parfois de l'art, plastique surtout, avec n'importe quoi, une barquette de beurre par exemple, voir le film. Et puis j'ai aussi aimé la BO, très rock'n'roll, vous savez que j'aime le rock'n'roll, avec Elvis Presley, entre autres, une comédie légère, donc à regarder sans modération.
Alors Elvis Presley, il était prévu de le passer, mais il y a un problème technique, on ne sait pas pourquoi ce titre ne passe pas sur notre...
C'est pas grave.
notre palette. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire. Oui, c'est vrai qu'il y a une satire de l'art contemporain, c'est évident, oui, absolument, dans le film, oui. Voilà, Smile, alors là, Smile, c'est au... Alors là, je ne sais plus très bien, c'est au Méga CGR, c'est à peu près sûr. Au Pathé Quincon, c'est peut-être même au Colisée, Smile. Alors, il y a de la VO, ça... non, je ne crois pas qu'il y a de VO. Smile, c'est un film de Parker Finn. Parker Finn, c'est un réalisateur, hein, parce que oui, Parker, ça peut être un prénom féminin aux États-Unis. Parker Finn, c'est un réalisateur scénariste américain. Il avait auparavant réalisé un court-métrage, et là, c'est son premier long-métrage. Le synopsis, après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. Et c'est interdit aux moins de 12 ans avec avertissement, carrément. Caroline Vier, dans 20 minutes, ce thriller horrifique signé Parker Finn est diaboliquement efficace. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Fort d'une tension parfois irrespirable et d'un malaise tenace, le film fabrique des visions de cauchemars terrifiantes qui brouillent les repères et bousculent la perception. Léo Jimmy Batista dans Libération, une salutaire sobriété, on ne succombe quasiment jamais aux facilités du jumpscare et quand ça arrive, c'est parfaitement maîtrisé. On se peut discuter. Et une exécution franche, en ligne pure, totalement premier degré, sans la moindre trace d'humour et encore moins d'ironie. Alors là, c'est tout à fait d'accord. Arnaud Allais, les Inoccupables, Smile, cale dans la manière qu'il a d'exprimer son effroi, rédigeant son petit manuel des outils horrifiques, les jumpscares vides de sang, vous voyez, ils ne sont pas d'accord, hein, la caution animal domestique sacrifiée, les séquences à tiroir de réalité. Le Figaro, Étienne Sorin, un petit film d'horreur, pas bien méchant. J'ai vu Smile. Oui, il y avait une avant-première, donc j'ai profité. C'est un film d'horreur à tendance fantastique, d'un niveau quand même un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit depuis quelque temps, même si c'est pas exemple de facilité inhérente au genre. Mais le réalisateur connaît son métier, il sait faire preuve d'efficacité dans sa mise en scène, des cadrages un peu bizarres, une musique angoissante, et puis les inévitables jumpscares. Le jumpscare, c'est... Ah, on ne s'attend pas, et puis on sursaute parce qu'il y a une image qui vous fait sursauter, ou un son qui vous fait sursauter. Le tout au service d'une histoire mêlant entité mystérieuse et trauma d'enfance. En effet, Rose, médecin psychiatre, voit sa vie bouleversée à la suite du suicide commis devant ses yeux par une patiente effrayée par des visions terrifiantes et inexpliquées. Rose en est tellement perturbée qu'elle-même commence à angoisser et va progressivement découvrir au cours de son enquête que de nombreuses victimes ont agi de la même façon que sa suicidée, répondant, semble-t-il, à une mystérieuse entité contagieuse qui leur veut du mal. Rose semble d'ailleurs la prochaine victime. Voilà, alors on assiste donc à une sorte de thriller parano, où Rose a bien du mal à convaincre son entourage de ce qu'elle raconte, puisqu'il n'y a qu'elle qui a ces visions-là. Il faut dire que son comportement devient aussi de plus en plus inquiétant, et puis qu'elle a un lourd passé traumatique enfoui et remontant à son enfance. Donc, c'est plutôt bien fait, avec une angoisse qui va crescendo, quelques visions gore qui plairont aux amateurs, bien entendu. Alors, on évite quand même la grosse surenchère, on évite également la grosse surenchère, c'est ça. Et le mystère n'est pas totalement dissipé à la fin, ça laisse la place à une éventuellement suite, s'il y a un succès au box-office. Donc, dans le genre film d'horreur, c'est pas si mal que ça, j'ai vu pire, mais c'est quand même un peu longué, ça fait 1h55, je crois. Smile, alors Smile, c'est proposé par le Méga, le Pathé, et peut-être bien le Colisée, c'est à vérifier, je vais le faire à la prochaine pause musicale. Par contre, je suis sûr que Vacances, c'est uniquement au Colisée. Vacances, c'est un film français, uniquement au Colisée, la réalisation Béatrice de Stahl et Léo Wolfenstein. Béatrice de Stahl, c'est une actrice qui ici réalise et produit. Et Léo Wolfenstein, réalisateur, pour tous les deux, c'est leur premier long métrage. Béatrice de Stahl, on l'a vu notamment dans les films comme La guerre est déclarée de El Caïm et Valérie Donzelli, La reine des pommes, on l'a vu aussi dans Superstar ou dans Ami Ami. Voilà, donc Vacances, ça dure 1h45, c'est avec Géraldine Nakache. Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses enfants, sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme étrange et fascinant qui l'attire lentement dans son piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar. Alors, c'est pas aussi simple que ça, le synopsis. C'est pas une nuit qui vire au cauchemar, c'est... Bon, passons. Dans le synopsis, ils n'ont pas vu le film, ceux qui ont écrit le synopsis. Le journal du dimanche, Stéphanie Belpech et Géraldine Nakache s'imposent dans ce récit de réconciliation et d'émancipation qui dénonce les violences faites aux femmes et les affres de la maternité dans une atmosphère pesante et lugubre qui entretient le malaise. West France, une ambiance de film de genre aussi surprenante que maladroitement maîtrisée. Cécile Murie dans Télérama, le vif talent de Géraldine Nakache donne un peu de consistance à ce personnage de mère indigne, fragile et fébrile, mais le film peine à trouver le ton juste entre conte vénéneux sur la condition féminine et thriller. Et puis, il y a qui n'ont pas aimé, c'est Thierry Chaise en première, à travers le personnage d'une mère aussi aimante que toxique, Géraldine Nakache impeccable, ce premier long ambitionne de parler tout à la fois de charge mentale, de maternité, d'homme toxique et de sororité. Mais bien que créant un mystère d'abord intriguant, il se perd et nous perd, faute d'une maîtrise indispensable à ses ambitions affichées. Et enfin, Xavier Le Herpeur dans l'Obs, la mise en scène insistante en rajoute une couche dont on se passerait bien. Dénoncer la violence faite aux femmes est indispensable, mais un peu de retenue ne serait pas de refus. Alors, vacances. Eh bien oui, j'ai vu Vacances au Colisée avec 3 séances par jour. On n'était pas nombreux dans la salle puisque j'étais tout seul.
Et que séance privée.
La veille, je crois qu'il n'y avait eu personne. Bon, bref. Gros problème avec le film. Alors, peut-être que ça vient de moi, hein, qu'il va falloir que je consulte un audioprothésiste. Mais une bonne partie des dialogues est inaudible. Alors, problème de prise de son, sans doute, ou de moi qui devient sourd. Mais je ne pense pas, parce que le soir, j'ai vérifié que je n'étais pas sourd, parce que je suis allé voir un autre film.
Et là, j'entendais ça parfaitement.
Bon, donc c'est quand même dommage, parce qu'on aurait bien aimé saisir tout ce qui se disait entre les personnages. Et là, il y a une bonne partie qui... Bon, voilà. Malgré ça, on comprend quand même de quoi il en retourne. Hein. Donc, c'est l'histoire d'une femme un peu perdue, débordée par sa progéniture, qui vient passer ses vacances toute seule avec ses 4 enfants dans la maison familiale de son mari. On est dans les Landes, voilà. On sent bien que dans le couple, bon, ça ne va pas trop. Et puis, c'est sans doute pour cela que, eh bien, la jeune femme se laisse séduire un soir par un gars du coin un peu étrange, à la réputation quand même inquiétante. Au début, ça se passe plutôt bien entre eux, mais très vite, ça tourne mal. Voilà, et donc, je ne vous en dis pas plus. Et ce n'est pas la première nuit que ça tourne mal, c'est après. Voici donc un thriller psychologique. On se demande quand même pourquoi le film a eu les honneurs d'une sortie sur les grands écrans, parce que franchement, c'est pas mauvais hein, comme film du tout, hein, mais ça se dégage pas particulièrement du lot des téléfilms polars qui sont proposés sur les chaînes de télé une ou deux fois par semaine. Le thème principal du film n'apparaît clairement que tardivement, c'est celui de la violence faite aux femmes. Sinon, bah, c'est un polar qui vaut surtout par la prestation de Géraldine Nakache. En jeune femme tourmentée, c'est un petit peu en contre-emploi, parce que souvent Géraldine Nakache, on la voit dans des comédies romantiques. Et là, ben, son personnage est en difficulté avec ses mômes dans la première partie du film. Bon, c'est la fameuse charge mentale, hein. C'est une mère aimante, mais elle est débordée par les mômes qui lui prennent du temps, les cours qu'elle doit faire, alors elle n'a pas le permis, enfin c'est très compliqué. Et puis, elle va avoir un grave problème à résoudre ensuite, mais le problème, je ne veux pas vous le dire, bien entendu. Alors certes, la réalisation crée une atmosphère, c'est créer une atmosphère, mais bon, ça n'est pas du tout vraisemblable comme histoire, mais ça, c'est pas à la limite très très grave, mais bon, c'est moyen, quoi. Disons que cette semaine, c'est pas le film qu'il faut voir absolument si on doit aller au cinéma. Voilà, ça s'appelle Vacances, c'est proposé par le Colisée. Allez, petite pause musicale, on revient à Sans Filtre et on écoute un titre très très connu, Lady Mojo sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Lady Mojo, on entend ce titre dans le film Sans filtre. Voilà, et bien maintenant, c'est le moment de parler du Sixième Enfant, un film de Léopold Legrand, réalisateur et scénariste dont c'est le premier long métrage, mais dont on entendra certainement à nouveau parler par la suite. Le film proposé aux cinéastes avec deux séances par jour, uniquement aux cinéastes. Le film est interprété par Sarah Giraudot, Benjamin Laverne, Judith Chemla et Damien Bonnard. Franck Ferrailleur et Myriam ont 5 enfants, un 6e en route et de sérieux problèmes d'argent. Julien et Anna sont avocats et n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un impensable arrangement. Mmh. La unanimité dans la presse, Gilles Kerdreux dans West France parle d'un premier film magnifique. L'humanité, tendue, incisif et intelligente, son premier long métrage n'en demeure pas moins une réussite. Le Figaro, premier film enfant de thriller intime signé Léopold Legrand. Ce drame plonge avec efficacité au cœur du thème de l'adoption clandestine. Juste et poignant. Baptiste Thion, le journal du dimanche, bien écrit, ce drame tendu s'avère un premier film prometteur. L'épatant quatuor d'acteurs y est pour beaucoup. Olivier de Bruyne dans Les Échos, dans son premier film, Léopold Legrand, examine un rapport problématique à la parentalité avec une sécheresse du trait et un sens de l'épure qui servent au mieux son intensité dérangeante. Ce coup d'essai audacieux mérite d'être découvert. Vous voyez, c'est très élogieux. Et on continue. Isabelle Magnier, Télé 7 jours. Avec délicatesse, le film aborde le désir viscéral de maternité, la justice et la morale, sans jamais juger ses personnages. Céline Rodin dans La Croix. Le film aurait pu être lourdement démonstratif, voire caricatural dans l'opposition entre ces deux mondes, les bobos d'un côté et les gitans de l'autre, mais il parvient à se maintenir sur une fragile ligne de crête, grâce à la fois à une mise en scène tout en tension et à un quatuor de comédiens tous excellents. Thomas Borès en première, toujours rapide et efficace dans son exécution, ce 6e enfant avance jusqu'au bout sans se retourner, une audace payante qui nous délivre in fine, d'une morale sentencieuse, une excellente surprise en somme. Et oui, je confirme, moi aussi j'ai beaucoup aimé.
Je confirme aussi.
Après Les Enfants des Autres, voici un nouveau film sur le désir de maternité. Est-ce qu'une femme, une femme plus qu'un couple d'ailleurs, est prête à faire pour assouvir ce désir justement? Ici, il s'agit rien moins que de procéder à un échange consenti d'enfants à la naissance, avec d'un côté un couple d'avocats, Julien et Anna, ils sont en mal d'enfants après avoir multiplié les tentatives de fécondation in vitro ou d'adoption. Et il propose à un couple de gitans sédentarisés, qui sont Franck et Myriam, de leur donner, entre guillemets, l'enfant qu'ils ne souhaitent pas avoir. En effet, ça serait le 6e pour Myriam. Et le couple de gitans ne peut pas matériellement supporter cette nouvelle charge, tout simplement. Dit comme ça, évidemment, ça paraît invraisemblable. Ça paraît insensé. Mais de nos jours, la frontière entre possible et invraisemblable en la matière, c'est de plus en plus flou, voire par exemple les possibilités de GPA. Hein. La GPA, c'est la gestation pour autrui, on n'en est pas loin là finalement, hein, de toute façon. Donc c'est un film qui ressemble un petit peu à un fait divers, et à la relation d'un fait divers, c'est un film qui, outre son étude sociale, hein, qui est en arrière-plan, qui montre deux mondes opposés, qui ne se rencontrent normalement pas, sauf que là, ben, c'est les circonstances qui font que ces couples se rencontrent, c'est lors de l'arrestation de Franck pour un petit délit routier et un vol de, enfin, un recel de matériaux, que Julien, son avocat, fait sa connaissance, il sympathise avec lui et il est amené à rencontrer sa famille. Alors le film, c'est quand même avant tout un film sur le désir de maternité irrépressible d'Anna, qui va amener les protagonistes à s'affranchir de la loi. Un film qui, par voie de conséquence, parle aussi donc de filiation, d'adoption, d'abandon. C'est un film qui montre tous les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les deux couples et chacun des personnages, parce que chacun des personnages a un dilemme à résoudre ou pas. Le film fait preuve d'une vraie justesse, d'une grande sobriété, et puis ses interprètes sont bien sûr tout à fait à la hauteur. Sarah Giraudeau en tête, bien sûr, de distribution. Mais on a aussi une mise en scène qui évite la sensiblerie outrancière pour bien montrer les enjeux, les situations que vivent les personnages. On ne peut avoir que de l'empathie pour eux, même si ce qu'ils font est considéré par la loi comme du trafic d'êtres humains. Moi, je considère que c'est un film vraiment réussi. Alors, Pierre ?
Le sixième enfant, un film très émouvant, effectivement, à tel point qu'à la sortie, j'ai versé une petite larme, même. Oui. J'étais très ému. Au début du film, je me demandais si je ne m'étais pas trompé de salle, tant ce début n'avait rien à voir avec le thème. Mmh. De l'adoption du sixième enfant d'une famille qui en avait déjà cinq, d'où le titre. Adoption illégale par un couple d'avocats, tu l'as dit. Les deux actrices, Sarah Giraudeau et Judith Chemla, sont impressionnantes de justesse et d'émotion. Par-delà la thématique de cette adoption, il y a aussi l'intrigue et le suspense qui en découle. Je me demandais comment tout cela allait finir, bien ou mal. Ce film est vraiment excellent et passe tout seul puisqu'il ne dure qu'une heure trente. Sans aucun doute, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Oui. Post-scriptum, ce film est tiré du roman Pleurer des rivières d'Alain Jaspard.
Voilà, et c'est proposé uniquement aux cinéastes, oui, avec simplement deux séances par jour.
Mais allez le voir.
Voilà. La Cour des miracles, cette fois-ci, c'est uniquement au Pathé Quinconce. C'est un premier film, là aussi. Non, pas un premier film, parce que c'est un co-réalisé, plutôt encore co-réalisé. Il y a eu beaucoup de films co-réalisés par Hakim Zouhani et Karine May. Pour Karine May, c'est son premier long métrage parce qu'elle est réalisatrice, scénariste et actrice dans ce film. Hakim Zouhari, Zouhani, c'est son deuxième long métrage. Il avait réalisé en 2011 Rue des Cités, et puis il a à son actif aussi de nombreux courts métrages. Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacé par l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire bobo écolo flambant neuf. Zaya, la directrice de l'école en quête de mixité sociale, s'associe à Marion, jeune instit plein d'idées pour créer la première école verte, entre guillemets, de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Et pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique, disons, hétéroclite et pas vraiment tournée vers la nature. Le Parisien, le film incite à tenter, à bousculer. Profs, parents, tous vivent dans cette cour des miracles qui veut dire à la fois ghetto, mais aussi scène de théâtre où les antagonismes s'affrontent et lieu de vrai et petit bonheur, miracle quotidien. Corinne Renouzati vient dans La Croix. Sur le ton de la comédie, le film évoque avec justesse l'érosion de la mixité sociale dans l'éducation nationale et les efforts déployés par les enseignants d'une école en difficulté. Stéphane Joly dans Le Journal du Dimanche, classique dans sa forme, ce premier film plein d'espoir s'appuie sur une galerie de personnages hauts en couleur. Olivier de Bruyne dans Les Échos, dans La Cour des Miracles, duo de réalisateurs Hakim Zouhani et Karine May, originaire d'Aubervilliers, décrit avec un sourire amer les réalités d'une école primaire de Seine-Saint-Denis. Un film offensif et foncièrement sympathique qui mérite que l'on oublie ses maladresses formelles. Olivier Cooper Adjian dans Cahiers du cinéma, si comme son titre l'indique, La Cour des Miracles n'est pas dépourvue d'ironie, il perd de son mordant à mesure qu'il progresse aux côtés de Marion, dont l'optimisme parvient à contaminer les plus cyniques. Qui est richesse en première. Tout ceci donne naissance à une comédie attachante, proche de la vie scolaire, mais plus occupée à délivrer un message qu'à imaginer un scénario sortant des sentiers balisés et attendus. Pas vu La Cour des Miracles.
Non, pas vu.
Parce que pas le temps, tout simplement. Hein, les horaires, là aussi, ne le permettaient pas. La Cour des Miracles s'est proposée uniquement par le cinéma Pathé Quinconce. Dernier film à l'affiche, cette fois-ci on repart au cinéaste. Alors là, il n'est pas très bien loti, le film Poulet frites. C'est un film de Jean Libon et Yves Inan. Vous voyez, une fois de plus, un tandem à la réalisation. Alors, c'est un record, on va avoir 4 ou 5 tandems là comme
ça. Oui, cette semaine, oui.
Oui, alors tous les deux sont réalisateurs et scénaristes, belges, tous les deux. Jean Libon et Yves Liman. Jean Libon, il est connu pour avoir fait beaucoup de documentaires pour la fameuse émission Striptease. Il avait également fait un documentaire en 2017 qui s'appelait « Ni juge, ni soumise ». Oui, c'était bien, je l'avais vu. Quant à Yves Inan, il avait réalisé en 2017 « Le flic, le juge et l'assassin », inédit. Et en 2011, « Les arbitres », un documentaire. Et puis « Ni juge, ni soumise » également. Voilà, alors donc « Poulet et frites ». « Poulet et frites », c'est une séance par jour simplement. Ça dure 1h40. « Striptease n'est pas mort ».« Striptease », c'est la fameuse émission de télé. Pour son retour, un polar noir, un vrai meurtre et la pièce à conviction, une frite. Jérémy Couston, Télérama, un meurtre, un toxicomane, un flic flegmatique, une pépite, par deux auteurs de l'émission Striptease. Olivier Delcroix, Le Figaro, aussi jubilatoire qu'attachant. Fabrice Leclerc déclare dans Paris Match que c'est un film savoureux. François Forestier dans L'Obs, c'est joyeux, absurde, tendance Groland, inattendu pour amateurs d'humour belge. Thierry Chaise dans Première, l'occasion pour le duo de s'adonner à leur exercice favori qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts, scénariser le réel en laissant la folie douce de leur personnage donner sa pleine mesure. Lélo, Jimmy Batista, loin de la gaudriole qu'on pourrait attendre face à un pitch aussi insensé, Poulet Frites invite ainsi le côté théâtral et les flirte avec le mauvais goût pour rester au plus près de l'anodin, du tangible, en tirer le meilleur parti et s'installer progressivement dans quelque chose qui ressemble davantage à de la mélancolie, un regard à la fois triste, tendre et accablé sur le monde, sans hauteur, avec une compassion à peine amusée. Pas vu.
Pas vu non plus. Bah, le titre, ça m'inspirait pas trop déjà.
Voilà. Bon, ouais. Avant de nous annoncer les nombreuses avant-premières de la semaine et les films à venir mercredi prochain, on vous passe un petit peu de musique. C'est Mia. Oui, Mia. Et ça s'appelle Born Free. C'est sur Radio Alpa 107.3.
Et c'est dans quel film ?
C'est dans Sans Filtre, toujours. Dans
toujours.
Sans Filtre, absolument. Alors, on va laisser Mia vociférer Born Free. Et nous, on va vous annoncer les films en avant-première. Et il y en a beaucoup, parce que c'est la semaine des avant-premières au Pâté. Et ça sera la semaine des avant-premières au Méga Cégère ensuite. Alors, si vous nous écoutez en direct déjà ce soir, vous avez Jack Mimoun à 20h, Les Aventures de Jack Mimoun. Moi, je l'ai vu, c'est un film sympa, un film d'aventure sympa. Samedi, au Pâté, à 15h45, Le Nouveau Jouet, le remake de Francis Weber, avec cette fois-ci Daniel Auteuil. Et Jamel Debbouze. Ensuite, Ticket to Paradise à 17h50 Omega, 18h15 au Pâté, mais c'est en version française. Donc moi j'attendrai pour le voir en VO mercredi prochain, enfin, j'espère. Dimanche, alors à 14h, à 17h ou à 18h, Dragon Ball Z. Oui, le dessin animé Dragon Ball Z, super héros. C'est partout en VO, et oui, partout. Alors donc je répète, 14h au Colisée, 17h au Pâté, 18h Omega. À 16h, toujours dimanche, au Pâté Quinconce, Tempête, un film français. Mardi avant-première de novembre. Alors ça, celui-là, il sort mercredi prochain, c'est un film absolument à voir.
Ah oui, je vais le voir. Oui.
Sur les attentats du Bataclan et compagnie. Oui. C'est excellent comme film. Alors là, les avant-premières, il y en a une à 19h30 au Pâté, une à 20h Omega, une à 20h30 au Colisée. Mercredi, il y aura Jack Mimoun, cette fois-ci, ce sera l'avant-première au Méga à 20h. Et jeudi, avant-première de Simone, le biopic sur Simone Veil, c'est à 20h30 au Pâté. Et sinon, Bross, mais uniquement en VF à 19h45 et 20h30, 19h45 au Méga, 20h30 au Colisée. Les films à l'affiche la semaine prochaine, alors outre novembre et Dragon Ball Super Héros, et Ticket to Paradise, il y aura aussi Un beau matin de Miansen Love, Une femme de notre temps de Jean-Paul Sidérac avec Sophie Marceau, L'origine du mal avec un gros casting, Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, et puis le film des frères Dardenne, Tori et Lokita. Les cinéastes vont devoir élargir les murs pour pouvoir proposer tous ces films-là qui sont annoncés chez eux. Bon, il y aura certainement aussi d'autres copies au Pâté et au Méga, voire peut-être au Colisée. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Nous, on vous recommande absolument Le Sixième Enfant, n'est-ce pas ?
Ah, je suis tout à fait d'accord.
Absolument.
Ouais,
et puis,
à voir.
Dans un autre genre, Maria Rêve n'est pas déplaisant, et Jumeaux, mais pas trop non plus. Pour ce qui est de Sans Filtre, je vous l'ai dit, je suis extrêmement mitigé, comme beaucoup de gens dans la critique. Voilà, donc, nous, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, dans Clap.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.